Là, pour le coup, quand j'ai intégré ce bureau de conseil, ce bureau de tendance, il y avait vraiment la notion forcément pécuniaire où on attendait de nous des vrais conseils stratégiques et opérationnels. J'ai intégré le pôle inspiration où mon rôle était vraiment de nourrir les clients sur le point de vue esthétique et image en tant que styliste. Et du coup, je participais autant dans la réalisation des trendbooks d'inspiration que dans la stratégie d'une marque. C'est-à-dire que j'intervenais chez des clients qui étaient des marques et qui étaient représentées soit par des DG, des équipes de style ou des équipes d'achat.
Bonjour à tous et bonjour à toi, Alexandra.
Bonjour.
Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter rapidement en 2-3 phrases?
Alors, je m'appelle Alexandra Rich, je suis trend forecaster et je suis styliste mode. Je travaille pour le marché de l'homme et de la femme en prêt-à-porter. Et j'ai 30 ans et mon job, c'est de prévoir un peu les tendances pour la mode de demain.
Ça marche. Il y a déjà plein de choses que j'ai envie de te poser comme question. Mais la toute première question, celle que je pose vraiment à tous les invités, c'est le sujet du podcast et la raison pour laquelle je t'avais contacté. Donc, quelle est ta définition de la modestie et de la modest fashion?
Quand tu m'avais contacté, c'était une notion que je connaissais déjà parce que c'est vraiment un courant que je suis particulièrement, qu'on a déjà pas mal observé, que j'ai déjà pas mal observé. Et en fait, c'est pour moi une mode qui fait vraiment écho aux nouvelles attitudes consommateurs que l'on a vu naître ces dernières années. Et en y réfléchissant plus particulièrement pour toi, je me suis rendu compte que j'avais plusieurs définitions à ça. Que d'abord, pour moi, la modest fashion, c'est vraiment une façon de penser, c'est-à-dire que c'est une mode raisonnée qui pour moi est vraiment réfléchie, porteur de sens, avec des vraies valeurs engagées. Donc il y a pour moi cette définition qui m'est venue en premier. Après, de point de vue esthétique, j'y vois vraiment une mode plus épurée, qui prône une forme d'intemporalité et donc par extension de durabilité. Et j'y vois vraiment des looks et des silhouettes qui montrent une forme de simplicité et d'essentialité, mais qui est savamment étudiée. C'est-à-dire que c'est pas juste quelque chose de simple et de basique, c'est au contraire une forme d'essentialité qui est pour moi très réfléchie. Et toujours pour continuer dans cette espèce de définition d'un point de vue purement esthétique, c'est vraiment pour moi une mode qui est à contre-courant d'une mode clinquante ou ostentatoire. Et ensuite, après avoir réfléchi un petit peu à ce point de vue purement esthétique, j'ai voulu aller au-delà. Et en fait, comme j'ai eu l'occasion de t'en parler, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était surtout une façon de mettre en avant un rapport au corps qui est différent, qui a peut-être une notion de pudeur, mais qui pour moi en réalité montre vraiment une autre vision différente de la féminité. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans la mode modeste, parce que c'est une autre vision et qui pour moi reste malgré tout moderne et très désirable.
Voilà. Et quand tu dis autre vision de la féminité, ouais, est-ce que tu peux détailler en fait comment elle s'inscrit en fait en rupture avec une certaine autre de mode en quelque sorte?
Comme je l'ai dit là, c'est vraiment, enfin, on sent vraiment deux tendances vraiment sur la façon de s'exprimer à travers le vêtement entre autres. Et il y a cette mode notamment beaucoup stimulée par Instagram et les réseaux sociaux où on montre son corps et c'est pas quelque chose qui est mal, seulement c'est vraiment quelque chose qui est plus ostentatoire, on va dire, plus extravagant, on va dire. Et en fait, la mode modeste, pour moi, c'est cette espèce de contre-pied à tout ça et de se dire, en fait, moi, je m'y retrouve pas du tout là-dedans et de montrer une version de la féminité qui reste moderne et qui reste, qui est plus dans la mesure, on va dire.
Ok, bah c'est super intéressant, je partage vraiment ton point de vue. Et ce qui est intéressant, c'est que peu importe le type de mode qu'une femme décide d'adopter, elle converge
Exactement.
vraiment vers le même objectif qui est bah, se sentir belle, féminine et
Exactement.
confiante en fait.
C'est pour moi une autre façon d'exprimer en fait sa féminité qui est différente de celle qu'on voit beaucoup. Comme je te disais, moi je le vois surtout personnellement beaucoup sur Instagram où tu as des personnalités qui sont connues parce qu'elles montrent beaucoup leur corps et c'est bien parce que c'est aussi une forme d'expression féminine, mais je pense qu'il y en a d'autres. Et la modestie et la mode modeste en est une autre qui est vraiment à garder en tête.
C'est super intéressant. Et du coup, si maintenant on se concentre plus sur toi et ton parcours, est-ce que tu pourrais revenir sur tes études et pourquoi si tu as étudié la mode déjà et pourquoi et qu'est-ce que tu as appris?
Si on commence par le parcours scolaire, j'ai fait un BTS design de mode que j'ai fait en 2 ans. Et ensuite, j'ai continué sur une formation de stylisme modélisme, mais que j'ai fait en alternance. Et en fait, c'était un peu plus le but, c'était pas tant d'avoir le diplôme, c'était d'avoir vraiment les 2 ans d'expérience qui me permettaient d'avoir une porte ouverte vers le monde professionnel. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours.
Et quand tu as fait de l'alternance, tu étais dans quel type d'entreprise ou quelle entreprise, si tu peux donner le nom, et qu'est-ce que tu faisais exactement?
Alors, j'ai commencé la première expérience dans une marque de prêt-à-porter moyen de gamme, où là, j'ai vraiment eu le poste d'assistante styliste. Donc pour moi, c'était vraiment une première approche du métier de stylisme comme on l'entend dans son idée première. C'est vraiment, j'ai intégré une équipe style où je me suis familiarisée avec le processus de création et forcément la construction et le développement d'une collection. Et du coup, je trouvais ça très intéressant parce que bah, je voyais vraiment comment le produit était fait, pourquoi il était fait, comment on le faisait concrètement, techniquement. Que ce soit du dessin technique jusqu'à la phase de modélisme. Donc, c'était une première approche du vêtement. Et ensuite, j'ai intégré le bureau de tendance interne d'un department store, d'un grand magasin parisien, où là, j'ai vraiment intégré la notion de tendance, on va dire. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que c'était mes 2 premières expériences, c'était vraiment l'aval et l'amont, c'est-à-dire que j'avais pour la première expérience en tant qu'assistante styliste le suivi d'un développement de produit et en fait ce qui m'intéressait c'est de savoir comment on aboutissait à développer ce produit. Pourquoi est-ce qu'on partait plutôt sur ce produit et pas plutôt sur un autre? Pourquoi plutôt cette couleur et pas plutôt une autre? Et en fait ben ça m'a mené sur le monde des tendances et des bureaux de tendance, des bureaux de conseil en stratégie créative. Et du coup, bah, j'ai intégré ce bureau de tendance interne.
Donc c'est intéressant parce que maintenant tu as vraiment une vision en fait 360 du produit en fait.
Exactement. Donc là, on parle des 2 premières expériences en alternance, mais après, du coup, on m'a donné l'occasion de rester dans ma 2e expérience, où là, du coup, j'ai vraiment pu approfondir vraiment comment définir des tendances et créer ce qu'on appelle un peu le storytelling, l'histoire d'un vêtement qui aboutisse après dans des vestiaires qu'on retrouve en collection dans les marques.
Et comment tu t'y prends pour détecter les tendances et mettre en place un storytelling? Parce que j'essaye en fait de m'imaginer le process. J'imagine que tu avais des clients qui te disaient, bon, voilà ma marque, mais j'ai du mal à savoir comment me positionner et comment raconter mon histoire. Donc comment se passe tout ce process et comment tu t'y prends?
Alors, là, dans un premier temps, quand j'étais dans le bureau de tendance interne du grand magasin, là, nos principaux interlocuteurs, c'était vraiment les achats. Les achats, aussi le marketing. Et en fait, c'était à partir du bureau de tendance interne qu'on définissait un petit peu le mood qu'il allait avoir la saison d'après. Là, c'était vraiment un pôle d'inspiration qui nourrit donc les autres. Du coup, c'était vraiment l'idée de trouver des nouveaux courants esthétiques, de faire une vraie étude de ce qu'on appelle des signaux faibles, signaux faibles, ça peut être d'un point de vue sociétal, artistique, musical. Et en fait, les signaux faibles, c'est des éléments qu'on observe. Ça peut être une exposition par là, la création d'un podcast sur la mode modeste dont on a entendu parler. Ça peut être une nouvelle marque dont on entend beaucoup parler sur Instagram. Donc, c'est ces petits signaux faibles qu'on va observer en regardant différentes presses, différentes choses sur Internet, des sites et bien sûr les défilés de mode des créateurs, qu'on essaye de faire un petit résumé de tout ça, et ça aboutit en fait à une cohérence esthétique globale, à une histoire en fait.
Donc je te coupe un peu, mais si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a une étape de veille où vous cherchez dans la presse, peut-être digitale ou physique, tout ce qui se passe, et vous créez un document où vous mentionnez tout ce que vous avez remarqué, et en fonction de ça, vous pouvez déterminer les tendances futures.
Exactement. Et en fait, à partir d'un point de vue peut-être plutôt consommateur, de voir un petit peu les nouvelles tendances consommateurs, pour ensuite aboutir à quelque chose de plus esthétique, on va dire, pour aboutir à quelque chose où on va y voir des nouvelles silhouettes, des nouvelles façons d'utiliser son vêtement, des nouvelles tendances de couleurs, parce que voilà, on va avoir envie des choses un peu plus chaudes, plus exotiques. Enfin, là, je dis vraiment n'importe quoi, mais c'est vraiment mis bout à bout, on arrive à une histoire qui va montrer les différentes influences, les différentes inspirations, les couleurs et du coup les silhouettes.
Et ça, tu faisais ça quand tu travaillais pour le grand magasin ?
Exactement. Donc là, j'ai vraiment approfondi le métier de trend forecaster, de pourquoi est-ce qu'on arrivait justement à ce développement de produit, pourquoi cette histoire, pourquoi ce produit, pourquoi cette couleur. Donc ça, je l'ai vraiment approfondi. Et comme dit, ça avait une résonance interne. Donc l'idée était d'avoir une cohérence globale dans le grand magasin à Paris et en France. Et à chaque fois, d'avoir ce qu'on appelle des opérations commerciales qui vont animer le magasin. Et ensuite, j'y suis restée 3 ans, plus de 3 ans. Et ensuite,
Juste, est-ce que tu pourrais nous partager une opération, par exemple, concrète que tu as pu mettre en place ?
Opération concrète, après, c'était plus sur des moments forts. Par exemple, quand on parle d'opération commerciale, c'est la période de la Saint-Valentin, la période de Noël, la valise de vacances. Ça, c'est ce qu'on appelait, quand j'y étais, des opérations commerciales. Et à ce moment-là, on pouvait pas juste dire c'est à Saint-Valentin, il fallait créer toute une histoire autour de ça, mettre en avant des couleurs, peut-être des personnalités, des influences qui étaient curatées, on va dire, par le grand magasin, et qui disaient, on a fait une collaboration avec telle marque, tel artiste, et à partir de ça, on crée vraiment une émulation créative autour de ce moment fort.
Ok.
Je ne sais pas si c'est clair.
Si, c'est un peu plus clair, merci. Ouais. Et du coup, après ?
Et du coup, après, j'ai eu l'occasion d'intégrer un bureau de conseil en stratégie business et créative, ce qu'on appelait plus communément des bureaux de tendance parisiens. Et là, pendant 4 ans, mes interlocuteurs, c'était des clients, c'est-à-dire des marques, des DG, des stylistes, des acheteuses, des acheteurs. Donc, c'était vraiment plus concret, on va dire. Autant ce que je faisais dans le grand magasin, c'était pas concret, c'est que ça restait en interne. Et il n'y avait pas cette dimension où on nous mandatait pour faire vraiment une mission de conseil. Là, c'était là pour le coup, quand j'ai intégré ce bureau de conseil, ce bureau de tendance, il y avait vraiment la notion forcément pécuniaire, où on attendait de nous des vrais conseils stratégiques et opérationnels. Et du coup, j'y suis restée 4 ans. J'ai intégré le pôle inspiration, où mon rôle était vraiment de nourrir les clients sur le point de vue esthétique et image en tant que styliste. Et du coup, je participais autant dans la réalisation des trendbooks d'inspiration, qui sont des outils d'inspiration pour les marques et les stylistes et les achats, de marque que dans la stratégie d'une marque. C'est-à-dire que j'intervenais chez des clients qui étaient des marques et qui étaient représentées soit par des DG, des équipes de style ou des équipes d'achat.
Et du coup, donc, comme je te demandais tout à l'heure, la marque, elle vient et te dit, voilà, j'ai besoin d'orientation sur, sur mon identité de marque ou le storytelling. Donc, tu travailles avec eux et le livrable que la marque reçoit, c'est le trendbook et des conseils, stratégies à mettre en place niveau stylistique et sur la direction artistique.
Exactement. Donc, soit ils faisaient appel à nous et achetaient ce qu'on appelle les trendbooks, donc c'est vraiment des outils d'inspiration qui parlent de tendances globales dans la mode, mais aussi dans le lifestyle. Et sinon, s'ils voulaient quelque chose de plus sur mesure, on va dire, on leur proposait une mission de conseil qui était vraiment taillée pour la marque, pour les objectifs de la marque, les problématiques qu'ils rencontraient. Et moi, en l'occurrence, j'intervenais, que ce soit dans le développement du produit ou que ce soit dans la communication et dans la stratégie créative de façon globale.
Et au début, est-ce que tu fais un diagnostic de la marque?
Exactement. Ça marche un peu comme en audit. Donc, on travaillait en binôme avec l'équipe marketing où il y avait vraiment une étude plus approfondie de la marque qui nous permettait de savoir vraiment les problématiques qu'elle rencontrait, pourquoi les clients étaient plus fidèles, pourquoi est-ce que certains produits marchaient. Donc, il y avait vraiment une étude un petit peu plus poussée qui était menée par la partie marketing et auquel moi, j'assistais parce que il y a forcément des répercussions sur le perçu de la marque, l'image qu'elle renvoie et les produits qu'elle vend.
Et une mission comme ça pour une marque, ça prend combien de temps à peu près?
Ça dépend du chantier, en fait. Il y en a qui demandent simplement un accompagnement sur le développement de produits, donc ce qu'on appelle du collectionning, donc vraiment les accompagner dans leur développement de collection et la recherche de produits et de développement de vestiaire, on va dire. Donc ça, c'est saisonnier, on va dire. C'est environ deux fois par an et ça peut durer... Moi, personnellement, j'ai travaillé environ 2-3 semaines et en fait, ça débouchait à un workshop où on présentait vraiment les recherches pour la marque. Et sinon, si c'était des chantiers qui parlaient plus vraiment de la marque de façon globale et pas uniquement sur le produit, là, ça pouvait durer plus longtemps, plusieurs mois même.
Et du coup, pour un peu résumer tes 4 ans d'expérience, même toutes tes années d'expérience en entreprise, quels sont les principaux enseignements et les principales leçons que tu as pu en tirer?
J'ai vraiment découvert le monde de la mode et comment il était construit, donc ce qui était assez intéressant. Je me suis rendu compte que le métier de stylisme n'avait pas qu'une seule définition. Elle avait vraiment plusieurs métiers. Et en l'occurrence, je me suis rendu compte que la définition des tendances et des attitudes consommateurs était très intéressant, plus intéressant pour moi que de développer le produit en aval.
Et pourquoi?
Je trouvais ça plus intéressant peut-être créativement.
Ouais.
Maintenant, je trouve ça très intéressant de développer des produits, mais d'être un peu la tête chercheuse de ce qui va arriver demain, je trouve ça plus stimulant, personnellement.
Ok, c'est intéressant.
Ouais. Et quel enseignement? Je me suis rendu compte que le monde de la mode était en pleine évolution aussi, qu'il fallait que nous, on change, que notre rapport aux vêtements et à l'achat de vêtements change. Et du coup, j'ai eu envie aussi de m'intéresser un peu plus à ce qu'était aujourd'hui la mode responsable et engagée. Et du coup, même à titre personnel, j'ai vraiment une culture de ce qu'est aujourd'hui la mode plus engagée. Et ces années d'expérience m'ont vraiment fait comprendre qu'il fallait qu'on arrive à trouver des solutions différentes de ce qu'on a toujours connu sur le développement du produit.
Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de la mode engagée. Comment est-ce que tu pourrais la définir?
Alors après, il y a plusieurs façons d'être engagé dans la mode. Après, d'un point de, tu parles de cette question d'un point de vue consommateur, du coup, parce que pour moi, il y a la mode engagée de façon globale et qui mène à plusieurs façons. Donc la mode, ce qu'on appelle éthique, respectueuse des travailleurs et des personnes qui font le produit vraiment, qui sont payées à juste titre. Il y a cette partie-là. Il y a aussi la mode éco-responsable où on va mettre en avant des matières vraiment plus engagées envers la planète, plus respectueuses. Et puis il y a ce qu'on appelle la mode durable. J'en ai parlé rapidement quand tu m'as demandé ce qu'était pour moi la mode modeste. C'est une mode où on sait qu'on va acheter un vêtement et qu'on va la porter, encore plusieurs fois et très longtemps, et qui est tellement de qualité qu'on va pouvoir la donner à ses enfants et qui pourront les reporter après derrière. Pour moi c'est trois branches vraiment de ce que j'appelle la mode engagée.
Et donc on pourrait considérer la mode modeste comme une mode engagée et durable.
Pour moi, je la vois vraiment comme ça, et elle est aussi engagée parce que, comme je te l'avais dit, elle met en avant une féminité, une vision de la femme qui est différente de ce qu'on voit au quotidien et sur les réseaux sociaux. Et dans un sens, elle est aussi engagée. Pour moi, c'est une représentation de la femme qui est très intéressante et qu'on voit pas tant que ça, et qui pour moi, est intéressante dans son engagement.
Et maintenant, avant de revenir sur les raisons qui t'ont poussé à te lancer en freelance, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la situation actuelle. Donc là, on se retrouve juste après la longue période de confinement. Oui. Et comme tu es vraiment pro des tendances, est-ce que tu as pu observer un changement? Parce qu'on parle beaucoup du monde d'après. Ouais. Donc, est-ce que tu trouves qu'il y a un changement ou des nouvelles attentes des consommateurs envers les marques? Comment est-ce que tu pourrais analyser les tendances aussi qui se découlent de cette période?
Alors oui, tout le monde parle un peu de ce new normal, de ce fameux monde d'après. Je ne sais pas s'il va y avoir une tendance forte, mais ce qui est clair, c'est que on va vraiment revoir tout ce qu'on a connu avant. Donc en fait, ça a mis en place une nouvelle façon de nouveau consommer, puisque cette crise a vraiment remis à plat notre rapport à tout, surtout à notre quotidien, notre façon d'acheter, notre façon de s'habiller, notre façon de se cultiver, notre façon de communiquer. Donc je pense qu'effectivement ça va changer notre rapport à tout ça, et surtout aussi notre façon de s'habiller, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait d'être en télétravail ou d'être en chômage partiel à la maison, c'était du confort avant tout qu'on voulait, c'était de consommer du durable et du local. C'était une attitude de consommateur qu'on voyait déjà venir ces dernières années. Mais en fait, cet épisode du Covid, ça a vraiment renforcé tout ça. Et je pense qu'on va vraiment partir dans cette direction-là.
C'est vrai que j'ai remarqué aussi que le confort, il revient souvent, et que maintenant, les gens, ils veulent de plus en plus avoir des vêtements confortables.
Exactement. En fait. Encore plus pour la femme que pour l'homme, parce que l'homme, encore, je trouve que de façon globale, il a des vêtements très confortables, mais rien que, par exemple, le soutien-gorge... Le fait d'avoir sur soi des matières agréables à porter, fluides, qui n'entravent pas le corps, on va dire, c'est vraiment une quête naissante et qui s'est confirmée avec cet épisode de la pandémie.
Et est-ce que tu trouves qu'il y a un retour aussi au minimalisme?
De façon globale, il a plus ou moins toujours été là. La tendance a été plus ou moins forte parce qu'il y a forcément eu d'autres courants esthétiques qui ont prôné un peu plus une mode plus affirmée, on va dire, plus fort esthétiquement. Et en fait, le minimalisme, il a toujours été là, et il y a toujours des marques qui ont prôné ce côté minimaliste. Après, au-delà du minimalisme, c'est vraiment ce côté simple, entre guillemets, mais qui est, encore une fois, étudiée. Et clairement, oui, il y a ce retour cette envie de choses faciles à porter, mais qui restent mode.
Et du coup, pour un peu clôturer ce sujet, concrètement, en quelques points, actuellement, pour résumer, qu'est-ce que les marques, qu'est-ce que les consommateurs attendent des marques actuellement?
Je pense que, et là, par contre, c'est vraiment quelque chose qui était déjà là depuis quelques saisons, mais là, en fait, vu que la mode, si je parle de mode, n'a pas été la priorité pendant cette période, ce qu'elles attendent maintenant des marques, c'est d'avoir vraiment de réel engagement, de remettre au centre cette notion d'authenticité qu'on retrouve d'ailleurs dans les valeurs de la modestie et de la mode modeste, et se positionner vraiment, que les marques se positionnent vraiment comme un acteur qui vit dans cette espèce de renouveau et faire le choix d'avoir de réels engagements dans l'entreprise. Et c'est vraiment l'idée d'avoir des valeurs fortes, donc que ce soit dans l'idée d'être complètement transparente sur la façon de développer son vêtement, d'être engagée sur la notion d'inclusivité, de vraiment encore plus communiquer là-dessus pour vraiment se dire je me retrouve dans cette marque et dans ses valeurs, et pas seulement dans les produits qu'elle me vend.
Et je pense que c'est un vrai enjeu pour les marques, parce que faut aussi faire attention à ne pas tomber dans ce qu'on entend et voit souvent, le greenwashing. Oui. Ou même pendant le Covid, on a entendu parler du healthwashing.
Oui.
Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux marques pour ne pas tomber dans ces travers, en fait?
Ne pas en faire trop.
Oui, voilà, c'est ça.
Et c'est encore une fois, ça nous rappelle à la modestie. Alors, avoir cette prise de conscience, c'est bien, c'est même très bien. C'est bien de l'appliquer. Après, d'en faire vraiment un outil marketing, c'est à double tranchant. Parce que, par exemple, j'ai eu l'occasion de discuter avec des marques avec qui j'ai travaillé et qui m'ont dit nous, on ne voit pas l'intérêt de parler du fait qu'on a des matières à 60% éco-responsables, parce que pour nous, ça nous semble évident.
Mmh. Mmh.
Et alors, je ne sais pas quelle serait la méthode pour ne pas tomber dans le piège du greenwashing, parce qu'effectivement, c'est quand même bien de le communiquer, à la fois pour la marque, mais aussi pour faire prendre conscience aux consommateurs qu'il y a des choses qui changent et qui évoluent, et du coup, c'est bien. Mais l'idée, c'est de ne pas en faire trop et de le faire vraiment, en fait. De pas seulement le scénariser, mais dans les actions concrètes, le faire vraiment.
C'est ça. Et c'est vrai que ne pas, en fait, centrer uniquement son storytelling autour du fait qu'on soit responsable, mais apporter quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus...
plus engageant.
Plus engageant, voilà. Et c'est là où, du coup, tu pourrais aider à une marque à mieux piloter et mettre en place son storytelling pour mettre en avant ses produits.
Exactement.
Et du coup, maintenant, tu t'es lancée, après les 4 ans dans ce bureau de style, tu t'es lancée en freelance. Déjà, ouais. Pourquoi ?
Je me suis lancée parce que j'avais un réel besoin de me challenger sur un projet qui me correspond plus, avec plus d'indépendance. Et aussi, j'avais besoin de déconstruire un peu mon rapport au travail, qui était jusque-là uniquement basé sur des expériences salariales intégrées. Et en fait, je me suis rendu compte que si j'avais la possibilité de le faire, autant le faire. Et voilà.
Et du coup, maintenant, comment tu définis ton activité et quels sont les services que tu proposes aux marques?
Alors, j'ai deux services, deux grands pôles, on va dire, sur lesquels... je pense être vraiment un atout. C'est d'abord le trend forecasting. Donc là, c'est vraiment analyser et adapter les nouveaux courants esthétiques dont je t'avais parlé tout à l'heure, les nouvelles attitudes de mode pour les marques, avec l'apport d'iconographie sur mesure, et où j'accompagne vraiment des équipes style et achat dans leur développement produit. Dans cette partie trend forecasting, je mets aussi en avant le fait que créer une histoire, c'est vraiment tout un cheminement, c'est une vraie étude consommateurs et je peux les accompagner là-dedans. Et ensuite, le deuxième pôle, c'est tout ce qui est stratégie créative. Donc là, c'est penser ou repenser l'ADN d'une marque de mode d'un point de vue esthétique et à 360, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc ça va du style du produit à développer, mais aussi à ce que je t'ai dit, à la communication à adopter en tant que marque.
Et c'est uniquement pour les marques mode ou tu es aussi ouvert au lifestyle, accessoires?
Alors, je suis vraiment spécialisée dans la mode, donc hommes et femmes. Ça s'étend bien sûr à l'accessoire. J'ai eu l'occasion de travailler pour des marques accessoires quand j'étais intégrée. Et après, le lifestyle, c'est encore différent. Pour moi, c'est encore un autre corps de métier. Même si j'ai un œil esthétique là-dessus, ce n'est pas ma spécialité.
Ça marche. Et maintenant, si on parle plus de toi et tes inspirations, c'est les questions de la fin que je pose un peu à tout le monde. La première, c'est quels sont les trois créateurs ou marques qui sont vraiment alignés avec ta définition de la modeste fashion?
Alors, moi, j'ai essayé de réfléchir un peu parce que des marques, j'en ai beaucoup en tête. Alors, la première qui m'est venue en tête, c'est la marque masculine luxe Ami. Je sais pas si tu connais.
Oui, je connais, ouais.
Voilà. Et pour moi, quand j'y ai pensé, je me suis dit, ça, c'est vraiment une marque sans prétention, mais clairement qui traite la mode avec élégance et modernité. Et je trouve que par rapport à la définition de cette mode modeste dont on parle depuis tout à l'heure, c'est quelque chose qui fait un peu écho, qui fait quand même beaucoup écho à ce qu'on s'est dit. Après, j'ai des marques qui sont vraiment d'un point de vue esthétique et d'un point de vue modernité. C'est Le Maire que je trouve très très fort parce que il fait tout avec sobriété, mais en même temps avec une recherche dans les silhouettes et les mélanges de matières qui est très intéressante. Tout de l'art de la subtilité et ça passe par des détails et des couleurs qui sont vraiment savamment étudiés. Et puis ensuite, dernière marque que j'avais en tête, c'est Monty. Ça, c'est une petite marque parisienne.
Ouais, je ne connais pas. Tu peux me dire le nom, s'il te plaît, je sais pas.
M-O-N-T-I, Monty.
D'accord.
Monty Paris. Et en fait, c'est une petite marque qui est récente, mais qui est très intéressante parce qu'elle fait de la création donc en édition limitée, parce qu'elle elle choisit ses matières en fonction de chutes et reste de matière de maison de luxe. Et ce qui est intéressant, parce qu'il y a un cercle vertueux qu'elle met en place, et en fait, la modestie, je la retrouve à la fois par le fait qu'elle récupère des matières déjà utilisées, des restes, et en fait, ça fait écho à cette notion de ce mot modeste, je trouve, qui est assez intéressant. Et en plus, dans le design de ses vêtements, il y a cette notion d'élégance et de confort qui sont vraiment mis en avant.
C'est vrai, là, je suis sur leur page et ce qu'ils font, c'est super beau. Et c'est un peu de l'upcycling, en fait, alors.
Exactement. Enfin, upcycling dans le sens où elles réutilisent, oui, des matières, mais c'est des matières à la base, c'est pas des vêtements qui ont déjà été faits.
Ouais. Et maintenant, si on part plus sur les artistes, quels seraient les trois artistes qui incarnent ta vision de la modestie?
Alors, j'y ai pensé, effectivement, c'est toujours ramené un petit peu à des artistes contemporains ou des artistes qui sont plus de l'ordre abstrait. Et j'ai pensé à Christo, qui du coup est récemment disparu. En fait, j'aime bien son processus créatif qui était très intéressant dans le sens où il avait comme mojo caché pour révéler. Et je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, ça ne veut pas dire qu'on fait disparaître des choses qu'elles n'existent plus. Au contraire, ça va les mettre en lumière. Et clairement, ça fait vraiment écho à cette définition de la modestie.
Mmh.
Et après, il y a deux grands artistes de la couleur et qui ont leur vision propre à eux de la couleur, ce qui est intéressant. C'est Soulages, donc qui a été récemment au Louvre, et Yves Klein, qui tous les deux ont cherché vraiment à individualiser la couleur, leur vision de la couleur. Et si on fait un parallèle par rapport à ce que la mode modeste et à une définition propre de la féminité, je trouve que ça fait plutôt bien écho et ça reste quand même hyper hyper beau.
Et c'est intéressant parce qu'il y avait aussi notre invitée Amaryllis qui avait mentionné Soulages.
Ouais.
C'est vrai que c'est super beau. Hein. Il se sert de la couleur noire pour faire vraiment des créations qui sont super belles et très évocatrices. Et ça montre aussi qu'on n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'artifices, en fait, pour donner de la valeur et transmettre des émotions à travers une création, en fait.
Oui, exactement. Et puis, comme dit, tout se fait de façon subtile. Dans le sens où, de loin, effectivement, de prime abord, ça ressemble à une œuvre d'art monochrome. Tout comme Christo, ça ressemble juste à quelqu'un qui a emballé un monument. Mais en fait, derrière, la démarche individuelle et même spirituelle de pourquoi est-ce qu'on a décidé de partir que dans ce sens, c'est assez intéressant et c'est fait de façon subtile. C'est vraiment, c'est réfléchi et c'est assez beau.
Et du coup, est-ce que tu aurais une exposition mode art qui t'a marqué et pourquoi elle t'a marqué?
Alors, ces derniers temps, j'ai pas été beaucoup
dans les musées,
mais même là, j'étais une très mauvaise élève des musées cette année 2019, ces dernières années 2019. Par contre, il y en a une qui m'a vraiment récemment marquée, c'est Van Gogh à l'Atelier des Lumières.
Oui.
Et en fait, ce que je trouvais très intéressant et qui m'a vraiment marqué, c'est que on a un rapport à l'art complètement différent, complètement digitalisé. Et c'est intéressant parce qu'il y a une vraie immersion visuelle et sonore de l'œuvre et de l'artiste. Du coup, je trouvais ça intéressant parce que c'est vraiment une autre approche de comment on peut percevoir une œuvre d'art.
C'est vrai, très modernisé, même si ces créations, elles sont très anciennes. Et j'y suis allée aussi, c'est vrai, c'était super...
C'est vraiment une approche complètement différente. On a l'habitude, on est un face à face, alors que là on est vraiment immergé à 360 d'une œuvre d'art, et là du coup le rapport il est complètement différent.
Et il me semble aussi que à cette expo il y avait trois artistes, pas uniquement Van Gogh, il y avait un artiste japonais, je crois, que j'avais beaucoup aimé.
Oui. Et je saurais plus te dire.
Ouais, moi non plus, le troisième je saurais plus te dire non plus, mais c'est vrai que c'est quelque chose à faire.
Ouais.
Là, je ne sais pas s'ils ont rouvert, mais en tout cas, si...
Il me semble qu'ils ont rouvert, mais...
Ouais. Et du coup, de manière générale, comment tu te nourris? Est-ce que tu suis la presse, online, offline? Tu as peut-être des comptes favoris que tu suis ou des livres à recommander?
Alors, en ce moment, je suis pas mal de choses, offline et online. D'un point de vue plus lifestyle... en ce moment, je suis des publications qui sont très intéressantes et qui parlent notamment de la vie rurale et campagnarde. En l'occurrence, je fais référence au magazine Regain et au magazine So Good. Bon, c'est pas sur la vie rurale et campagnarde, mais en fait, ce sont des magazines, enfin de la presse. Qui met en avant des choses assez positives qu'on n'a pas l'habitude de voir nous en tant que citadins, enfin dans la ville de Paris, et du coup ça met vraiment en avant une autre façon de vivre, plus modeste, et ça parle vraiment de la vie rurale modeste et comment dans ce mode de vie là on peut y trouver des choses très belles et très inspirantes. C'est vraiment mettre en avant des choses positives et des projets qui donnent envie d'avancer.
Dans n'importe quel univers.
Exactement, sociétal de façon globale. Et vu qu'on va, je pense, vivre une vraie exode urbaine, je pense, avec cette pandémie, je pense que c'est intéressant de voir ce qui s'y passe dans la vie rurale. Et ensuite, du coup, en mode, là, j'ai vraiment beaucoup de références, mais il y en a plusieurs qui sont intéressantes pour moi. C'est L'Étiquette, qui, elle, parle vraiment de la mode masculine et comment... qui est vraiment très didactique, on va dire, sur comment bien s'habiller de façon désirable et efficace. Je trouvais ça assez intéressant.
Et c'est intéressant parce que du coup, tu t'intéresses vraiment à la mode masculine.
Oui, bah oui, forcément. Du coup, pour continuer à se nourrir, que ce soit la mode féminine et masculine, parce que c'est vraiment, c'est une double expertise que j'ai.
Donc, est-ce que tu as un peu des différences entre les deux dans leur manière de communiquer ou même dans la manière dont les consommateurs évoluent par rapport à ça?
Alors, en fait, jusque-là, on avait vu la mode masculine comme devant, qui devait être assez simple et pratique. Et en fait, notamment bah, avec le magazine d'étiquettes, on se rend compte qu'avec du simple, on peut faire de l'élaboré. Tout est dans le choix subtil de la bonne superposition, du choix des matières, des bonnes harmonies de couleurs. Et en fait, la mode masculine est vraiment à traiter de façon plus subtile. Alors que la femme, c'est pour moi un peu plus évident. C'est-à-dire que la femme, elle va soit, comme je t'ai dit, rechercher quelque chose de plus, on va dire, ostentatoire, ou elle va chercher quelque chose, elle est plus de l'ordre esthétique et peut-être moins de l'ordre du pratique, on va dire.
Et là, on a beaucoup divagué, mais du coup, est-ce que tu aurais aussi d'autres comptes, peut-être, à nous proposer, d'autres sources?
Alors, donc, je t'ai parlé en termes de mode, je t'ai parlé de l'étiquette. Ouais. Après, il y a des médias mode que je trouve intéressants, comme ID Magazine, Dazed and Confused, Antidote, qui sont de la presse un peu plus, je dirais, alternative et underground, que je trouve très intéressant en termes de mode. Et après, il y a aussi de la presse engagée qui parle de mode engagé et éco-responsable. Par exemple, Kaisi Magazine, K-E-I-S-E-I Magazine, qui est très intéressant et qui parle vraiment d'une mode moderne et engagée. Et en fait, son mojo, c'est vraiment de dire que bah, ça veut dire qu'on est engagé, qu'on est ringard en fait, et qu'il y a plein de choses très modernes et très désirables qui se font dans la mode engagée. Et après, ben, pour nourrir mon inspiration, il y a bien sûr tous les défilés que je regarde avec les nouveaux créateurs qui peuvent être mis en avant.
Et c'est bien que tu parles des défilés parce que ça me vient à une nouvelle question. Là, on voit un peu que le calendrier de la mode, il est un peu beaucoup chamboulé. Oui. Et quels sont tes ressentis par rapport à ça? Comment tu crois que la mode va évoluer? Est-ce que tu penses que c'est la fin des Fashion Week comme on les connaissait avant?
Je ne sais pas si c'est la fin des Fashion Week comme on les connaissait avant, mais déjà, il y a une envie de ralentir.
Ouais.
Parce que, et ça, c'est déjà super à relever. Parce que c'est avec ces Fashion Week qui n'en étaient plus vraiment... Enfin, c'était plus vraiment des semaines de la mode parce que ça s'étalait sur plusieurs semaines et au final, mis bout à bout, ça faisait l'année en fait. Donc, effectivement, on s'est rendu compte qu'en fait, d'avoir autant de moments comme celui-ci, c'était pas nécessaire. Donc, l'idée de revenir un petit peu sur un rythme plus espacé, c'est déjà bien, c'est une belle avancée. Après, je pense que ça va continuer à être là parce que ça va être, c'est des moments forts en fait, culturellement. Alors à Paris, on le voit, hein, c'est des moments forts. Il y a une vraie émulation créative et c'est une façon de présenter les collections pour les créateurs. Donc je pense que ça va continuer. Seulement, ça va être réduit et ça va être traité de façon plus modeste, voilà.
Donc la modestie, elle est vraiment de plus en plus.
Ouais, et puis, mais encore une fois, je pense que ça a été, enfin, la pandémie a été accélérateur de tout ça. C'est-à-dire que c'était, on le sentait que c'était une envie, alors de la part des consommateurs et donc du coup de la part des marques de le faire, mais concrètement, il n'y avait pas vraiment, eu des choses qui ont été faites. On y avait cette envie, mais concrètement, il n'y avait pas des actions concrètes. Et le fait qu'il y ait eu cette pandémie, tristement, a amené à cette façon de revoir un peu notre rythme. Et c'est bien.
C'est vrai. En fait, il fallait juste quelqu'un qui se lance. Moi, je parle aux annoncements. Je crois que c'était Giorgio Armani qui avait commencé à dire qu'il allait se retirer. Et après, tu as d'autres marques qui ont suivi petit à petit, en fait.
Après, c'est pas facile d'un point de vue business de suivre ce mouvement-là parce que forcément. Comme dit, c'était un moment où ça permettait de présenter des collections et donc du coup de générer du contenu, de la vente, etc. Donc c'est pas une décision facile, ça je l'entends bien, mais quelque part c'est bien. parce que il faut avoir du courage pour se positionner là-dedans. Et c'est de ça, en fait, tu m'as demandé tout à l'heure quelles étaient vraiment les choses à faire pour les marques, c'est d'avoir vraiment le cran et forcément les capacités financières derrière de le faire, de se donner les moyens, de se positionner et de se dire bon bah je me retire vraiment de la Fashion Week et j'essaie de faire quelque chose de plus sensé.
Bah, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. Et est-ce que tu aurais peut-être quelques derniers mots à partager et aussi surtout nous dire comment est-ce qu'on peut te retrouver, comment te contacter, sur quel réseau tu es présente?
Je suis présente sur Instagram, alexandra.rich, R-I-S-C-H. Et sinon, je suis contactable via LinkedIn aussi. Et voilà, après, je n'ai pas forcément des mots pour finir, mais j'ai été très contente de discuter et d'échanger avec toi.
Merci beaucoup, Alexandra. Moi aussi, j'étais vraiment très contente que tu aies accepté mon invitation et de cette discussion où j'ai beaucoup appris. Et je te souhaite une très bonne continuation. Merci encore et je te dis à bientôt.
À bientôt.